السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette journée du 10 Ramadan 1447 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 27 février 2026, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala réunis fraternellement, spirituellement, au cours de ce mois béni qu'est le mois de Ramadan, au sujet duquel notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel a été descendu le Coran, qui est une guidée pour les gens, preuve claire du chemin à suivre et discernement. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les mois celui de Ramadan pour en faire la période de sa révélation. Cette révélation qui deviendra la guidée et la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala afin que quiconque aspire à une vie bonne, pure, promise par Allah subhanahu wa ta'ala puisse y arriver. Ce Coran est la parole du noble Seigneur, du Tout-Puissant, celui qui nous créa à partir de rien, celui qui nous octroie et ne cesse de le faire, la subsistance de jour comme de nuit, celui qui, par sa grâce, nous a guidés à la voie de l'islam et qui nous a protégés de nombre d'épreuves et de calamités ayant atteint beaucoup parmi les gens, celui qui nous a favorisés et qui nous a préférés, choisis entre tous ses serviteurs qui peuplent cette terre sur laquelle nous vivons. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait de ce mois une bénédiction pour la communauté musulmane, au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait régulièrement, quotidiennement, au cours du mois de Ramadan, la visite de l'ange Jibril alayhi salam, venant à lui pour l'aider à réviser ce qu'il avait appris du livre d'Allah. Il venait le voir chaque jour, chaque nuit, et lors de l'année de sa mort, ou peu avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui faire réviser le Coran à deux reprises. Ainsi, le Coran a une importance bien particulière dans le cœur de tout croyant, et encore plus particulièrement au cours du mois de Ramadan. Pour cela, le croyant, la croyante, les musulmans doivent redoubler d'efforts dans leur attachement à ce livre béni, contenant tout le bien, décrivant tout le mal, ce livre qui nous éduque, qui nous oriente et qui nous élève vers les plus hauts degrés, si bien sûr nous acceptons d'en suivre les enseignements. Ainsi, les savants de l'islam ont toujours fourni des efforts considérables, particulièrement au cours du mois de Ramadan, que ce soit à travers la lecture du Coran ou encore son explication, et même par la rédaction d'ouvrages bénéfiques dont l'utilité ne cesse de tirer profit aux musulmans jusqu'au jour où je vous parle. Et donc, j'ai choisi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après réflexion, justement de méditer avec mes frères et sœurs qui m'écoutent, quelques passages, quelques versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul doute que le fait de prendre soin du Coran, de son explication, de chercher à en comprendre l'essence, de les méditer Nul doute que cela fait partie des actes les plus grands qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes les plus méritoires et les plus immenses pour l'étudiant en sciences religieuses, pour le musulman cherchant à comprendre ce discours lui qui lui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a certes ordonné dans le Coran de méditer son livre en nous enseignant qu'il n'a été révélé que pour que ces versets soient médités. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, et en second lieu, tous les musulmans concernés par ce discours coranique. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Quelle en est donc la sagesse? Allah nous dit dans la suite du verset, لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ afin qu'ils en méditent les versets et que les doués de raison se rappellent. Voilà la sagesse pour laquelle le Coran a été révélé. Il est tout à fait différent d'un autre discours. Il n'est pas une parole humaine. Il ne vient pas de l'homme. Il vient du créateur de l'homme. Et ce créateur s'adresse à l'homme en lui enseignant qui il est, lui le créateur, et qui il est, lui le serviteur. Et il lui enseigne comment est-ce qu'il doit nourrir cette relation qui le lie avec son créateur, en lui donnant justement les règles religieuses, les ordres qu'il faut suivre et les interdits qu'il faut délaisser, afin que les doués de raison se rappellent. Car effectivement, seuls les doués de raison savent tirer profit du rappel du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ ne méditent-ils pas le Coran ?»« أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » ou plutôt, y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Également, Allah Azza wa Jal nous dit, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ n'ont-ils pas médité la parole? La parole, c'est le Coran. Ce Coran qui guide vers ce qu'il y a de plus droit, de juste, de meilleur pour l'ensemble des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ainsi, parmi les actions les plus méritoires, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, le fait de s'efforcer de rechercher à comprendre l'essence du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne se fait pas depuis nos imaginations, nos avis, nos points de vue, mais plutôt depuis les explications qui nous ont été données par le Coran lui-même, dont certains versets viennent détailler d'autres, mais aussi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et encore par les compagnons du prophète radiyallahu anhum, et ainsi de suite, de génération en génération, les savants de l'islam n'ont cessé de nous démontrer l'essence du Coran et de nous éclairer dans ce sujet. Ainsi, je me baserai, incha'Allah ta'ala, sur un écrit de l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir ibn Si'di, rahimahullah ta'ala, qui est le grand professeur du grand savant et illustre Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Abdurrahman ibn Si'di a rédigé un livre qu'il a intitulé Taysir al-Latif al-Mannan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Ce livre est un résumé de l'explication du Coran qu'il a lui-même écrit de manière plus allongée. Après avoir écrit le livre, l'explication du Coran entière, proposition lui a été faite de rédiger un résumé dans lequel il allait recueillir quelques passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala traitant des différentes thématiques énoncées dans le Coran, afin d'éclairer quiconque voudrait plus tard s'élargir dans la compréhension du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est vivement conseillé aux arabophones de posséder ce livre et de le lire, puis d'en chercher l'explication. Je me baserai donc sur ce livre-là, dont je ne lirai pas l'entièreté pendant ces quelques assises qu'Allah nous permet de mettre en place, mais je tirerai certains passages et certaines explications dans différentes thématiques du Coran, car ce livre englobe une introduction qui nous montre les descriptions du Coran. Ensuite, un passage qui traite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la croyance islamique et ses fondements. Vient après cela une série de versets choisis par l'auteur, rahimahullah, pour traiter le sujet de la moralité islamique, des bienséances et des politesses dont les musulmans doivent faire preuve, qui sont énoncés dans le Coran. Ensuite, une série de versets choisis par l'auteur traitant des règles religieuses. Puis, les histoires des prophètes. Et enfin, quelques intérêts divers et variés, tous présents dans le Coran. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus parfaits et ses attributs sublimes, de faciliter à celui qui prend la parole, mais aussi à celui qui l'écoute, d'en tirer profit et de faire en sorte que ce soit pour lui et eux une bénédiction, tant bien ici-bas que dans l'au-delà, tout comme nous lui demandons, en cette heure bénie, le pardon pour nos péchés qui sont tellement nombreux, et la guider vers son droit chemin. Il en est certes capable, subhanahu wa ta'ala. Dans chaque passage de ce livre, il y a donc une partie qui va regrouper des versets englobant les sens généraux des différents thèmes du Coran. Et l'utilité de cela, c'est justement de motiver le musulman en éveillant sa conscience vis-à-vis de l'importance de la compréhension du Coran, car tout musulman ne va pas forcément lire les grands ouvrages qui nous détaillent l'explication de chacun des versets du Coran. Mais, en prenant quelques gouttes dans cet océan et en cueillant quelques fleurs dans ce jardin béni, le musulman aura envie d'œuvrer davantage en ce sens. Et c'est pour cela que le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah a dit « فَالْوُقُوفُ عَلَى تَفْسِيرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ يُعِينُ أَعْظَمَ عَوْنٍ عَلَى مَعْرِفَةِ بَقِيهِ » Le fait de prendre un instant, de s'arrêter pour réflexion sur l'explication d'une partie du Coran est une chose qui aide énormément à la recherche de la connaissance de tout le reste du Coran. Si on te parlait d'un trésor immense, si on te parlait de chiffres immenses, peut-être que ça ne te parlerait pas. Mais si on te montrait une somme, un morceau de ce trésor, de ce bijou, ça te donnerait envie d'en posséder bien plus encore. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce Coran des versets répétés, contenant des sciences utiles pour le serviteur, des sciences complètes. Et cela fait partie de cette facilité dont il a parlé, subhanahu wa ta'ala, s'agissant de son livre, quand il nous dit « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ » Et nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler ? Regardez, Allah nous enseigne que le Coran a été rendu facile pour le rappel, pour la méditation, pour la compréhension, pour son application. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien faire les efforts pour atteindre ce rappel. et en bénéficier, en tirer l'utilité. Ainsi, il est important, il est tellement important de comprendre ce sujet-là. Parlons maintenant, incha'Allah ta'ala, du fait que les savants de l'islam nous ont montré combien le Coran est riche dans les sens qu'il contient, si bien qu'un seul verset peut traiter en même temps de plusieurs sciences. Et ça, tu ne le retrouveras que dans le Coran. C'est pour ça que des fois, des savants s'arrêtent sur un seul verset et ils en méditent les sens qu'ils ne cessent de déduire de ce même verset-là. Certains sens qui vont nous traiter des règles religieuses, où l'on va apprendre notamment qu'il est permis de faire telle chose, interdit de faire telle autre, obligatoire de faire telle et telle chose, et ainsi de suite. On retrouve peut-être dans le même verset une exhortation, un rappel. On y retrouve également, parfois, en même temps, la croyance islamique et l'un ou plusieurs de ses fondements. Et ainsi de suite, c'est ainsi que le Coran montre clairement combien il est riche et qu'il ne peut être la parole d'un homme. C'est le miracle révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par lequel nous nous sommes vus comblés, nous autres les musulmans. Oh Allah, à toi toutes les louanges pour cela. Subhanaka wa ta'alayt. Tabaraka wa taqaddasat asma'uk. Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa rabbuna wa rabbul alamin. C'est notre Seigneur et le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste, et ceci dans tous les domaines de la vie. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit dans la conviction religieuse à laquelle on doit adhérer. Dans notre croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, et dans toutes les ramifications de ces fondements de la croyance islamique. Dans notre croyance quant à ce qu'il adviendra à l'un d'entre nous, une fois décédé, une fois sous terre, dans sa tombe, mais aussi dans l'au-delà, lorsqu'il comparaîtra devant Allah pour répondre de ses actes et justifier ses paroles. Le Coran nous enseigne les meilleures règles, les meilleures moralités. Il nous conte les meilleurs récits et nous explique les meilleures des histoires qui ont les morales et les leçons les plus riches. Le Coran est la vie des cœurs. Le Coran est une parole puissante. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ô Allah, fais que ce Coran habite nos cœurs. Ô Allah, fais que ce Coran purifie nos âmes. Ô Allah, fais que ce Coran nourrisse notre lien qui nous rapproche de toi. Tu en es certes capable. Subhanaka wa ta'alayt. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allahu anzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre le meilleur des propos. Allahu anzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre le meilleur des propos. Kitaban mutashabiham mathani. Un livre dont les versets répétés se ressemblent. Ils se ressemblent, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète dans le Coran différentes histoires, il répète différentes règles, et il le fait de manière différente, tous se complétant les unes les autres. Et cela te montre le caractère miraculeux du Coran. Et croyez-moi bien, si les détracteurs du Coran, si les détracteurs de l'islam avaient trouvé un moyen pour falsifier ce livre, alors il n'aurait pas manqué de le faire, et cela depuis 1447 années que ce Coran a été révélé. Et wallah, wa billah, wa tallah, personne jusqu'à cette heure n'a jamais et ne réussira jamais à falsifier ce Coran, à en modifier le contenu, car il n'est autre que la parole du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Voyons maintenant les différents descriptifs du Coran, les différentes qualités par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran. Et l'imam Ibn Sa'di, rahimahullah, dans cet ouvrage, le résumé de l'explication du Coran, a en introduction cité justement les différentes ou certaines des différentes caractéristiques globales, générales du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas m'atteler à lire en arabe puis traduire en français, faute de temps, mais je résumerai le contenu du propos du cheikh afin que l'auditeur puisse en tirer profit au maximum. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran par d'énormes et d'immenses caractéristiques qui justement font du Coran ce qu'il est entièrement. Et cela nous prouve que le Coran est la base et le fondement de toutes les sciences utiles qui guident les gens et qui les orientent vers le bien, tant bien ici-bas que dans l'au-delà. Le Coran est la base de toutes les sciences. On y retrouve la base du savoir. Quelqu'un sans le Coran est quelqu'un qui est ignorant, quand bien même il aurait acquis les sciences profanes, il aurait d'énormes défaillances sans bien sûr qu'il ne s'en rende compte. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son livre le Coran comme étant une guidée, une droiture, un discernement, un éclaircissement. Il est en lui-même une guidée parce qu'il guide les créatures vers tout ce dont ils ont besoin, comme intérêt mondain, religieux. Il est une droiture parce qu'il vient rectifier le cheminement de ceux qui marchent dans la voie du bien. Il est un discernement car il détaille et distingue le vrai du faux, la guidée de l'égarement, au point de nous démontrer clairement par des versets explicites les différentes caractéristiques des gens bienheureux et des gens malheureux, en nous montrant la différence entre ceci et cela. Il nous montre aussi les fondements et les ramifications à suivre à travers des preuves tant bien rationnelles que religieuses et relatives au texte. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce noble Coran toutes ces différentes qualités et ces différents descriptifs englobants qui complètent et qui concernent chacun de ces versets. Mais écoutez bien ce qui va suivre. Je répète, mais toutes ces utilités du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde ne les perçoit pas. Tout le monde ne les comprend pas. Tout le monde ne peut pas en tirer profit, car toutes ces caractéristiques évoquées par Allah dans le Coran ont en réalité des conditions pour en tirer profit. On en parlera, Incha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Nous avons dit premièrement que le Coran est une guidée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois du Ramadan est celui au cours duquel est descendu le Coran en guidé pour les gens. Allah nous montre clairement que le Coran est la voie de la guidée, la source de la guidée. Quiconque voudrait se voir bien guidé devrait alors se tourner vers le Coran. Au sujet duquel Allah Azza wa Jal a dit « Yahdi ila rushd » lorsque les djinns, subhanallah, dans cette fabuleuse histoire, avant que ne soit faite la révélation du Coran au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est connu, dans les textes qui nous sont rapportés authentiquement, que les djinns, cette créature existant sur terre avant l'homme, créée à partir de feu, les djinns montaient au cieux, montaient les uns sur les autres, ils s'escaladaient pour arriver jusqu'à la plus haute assemblée des anges qui discutaient entre eux, et c'est une chose qui ne cesse de se produire d'ailleurs, qui discutaient entre eux de ce qu'il adviendrait de telle ou telle chose, de telle ou telle personne. Et les djinns un jour ont voulu monter pour espionner la discussion des anges qui parlaient entre eux de ce qui allait se passer après avoir pris les informations d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Mais subhanallah, lorsque le Coran a été révélé, il s'est passé quelque chose. Les djinns n'arrivaient plus à monter au ciel. Ils n'arrivaient plus à monter au ciel et ils se voyaient chassés par des étoiles dans le ciel. Alors ils se sont concertés mutuellement. Il y a vraiment un problème. Pourquoi n'arrivons-nous pas à monter au ciel comme on pouvait le faire aisément autrefois? Il faut absolument que l'on parcourt la terre à la recherche de la réponse à cette énigme qui nous trouble et cette question qui nous perturbe. Et alors, ils se sont mis à parcourir la terre pour atteindre une terre bénie, Mecca, où se trouvait le noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois arrivés là-bas, ils ont aperçu le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, et l'ont vu en train de réciter le Coran. Ils se sont arrêtés un instant pour prêter oreille à cette parole magnifique qu'ils n'avaient jamais entendue avant et dont nul égal n'a été révélé. Ils se sont vus immédiatement troublés par la lourdeur, par la valeur, par la profondeur, par la force de ce discours frappant, clair, éloquent, au point où Allah a révélé Suratul Jin, dans laquelle il nous raconte ce fait, quand il nous dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ, dit au prophète à ces gens-là, il m'a été révélé, أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ, qu'un groupe de djinns a écouté attentivement, c'est-à-dire la récitation du Coran. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Ils ont alors dit, nous venons d'écouter attentivement un Coran étonnant. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, qui guide vers la droiture. فَآمَنَّا بِهِ, et nous y avons cru aussitôt. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, et nous n'associerons rien à notre Seigneur. Et c'est ainsi que les djinns ont compris que la raison pour laquelle ils ne pouvaient plus s'élever ou monter les uns sur les autres pour atteindre les hauts cieux afin d'espionner les anges, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal a protégé les cieux, car il y avait la révélation du Coran, afin que la révélation du Coran ne soit pas mélangée à ce que les djinns allaient rapporter. Allahu Akbar. Les djinns eux-mêmes ont reconnu la droiture du Coran et qu'il est un livre qui guide vers les gens aussitôt après en avoir écouté quelques versets. Nous autres ne cessons d'entendre ce livre sans le comprendre, sans en tirer profit, sans voir nos cœurs revivre, il y a vraiment là un problème. Nous en parlerons, incha'Allahu ta'ala, et nous y rechercherons la solution en demandant l'aide d'Allah, car lui seul peut aider, lui seul peut guider, lui seul peut faciliter, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi décrit son livre comme étant un livre explicite, lorsqu'il nous dit par exemple « Wal kitab il mubin » par le livre explicite. Il jure par son livre. Il jure par son livre. Et lorsqu'il jure par quelque chose, cela nous montre l'importance de celle-ci. Son livre est un livre décrit comme étant explicite. Il détaille tout ce dont a besoin l'un d'entre nous, subhanahu wa ta'ala. Tout cela nous montre qu'il est un bien immense pour l'ensemble des serviteurs, pour l'ensemble des gens parmi ceux qui voudraient atteindre cette guidée. Et les guidées contenues dans le Coran sont en réalité une affaire étonnante, sont une affaire tellement étonnante. Il contient des versets détaillés qui nous décrivent les gens bienheureux, la voie qu'ils ont suivie pour le devenir et ce qu'il adviendra d'eux le jour dernier. Il nous décrit avec détail les gens malheureux, là où les voies qu'ils ont suivies pour le devenir et ce qu'il adviendra d'eux. Subhanallah, Allah n'a rien laissé dans le Coran. Mais cette guidée dont il a parlé dans son livre ne peut être profitable que si les conditions sont remplies. Et c'est ça qui est tellement important. Car souvent vous allez entendre le Coran est puissant, le Coran a des sens qui sont riches, nobles. Mais lorsque vous le lisez, peut-être que vous ne vous apercevez pas de cela. Où est donc le problème? Écoutez bien, soyez attentifs, ouvrez vos cœurs et prêtez l'oreille. Le problème vient du réceptacle, qui n'est pas apte, qui n'est pas pur pour contenir le contenu du Coran. Imaginez-vous un peu un vase en verre. Si ce vase en verre, qui a été conçu pour contenir de l'eau, était plein d'un autre liquide, il n'y aurait alors plus de place pour le remplir d'eau. Il ne faudrait donc pas s'étonner que l'eau, qui pourtant est la source de la vie et qui est la santé, ne puisse pas atteindre ce contenu. C'est parce qu'il est déjà plein. Que faut-il faire alors si l'on veut vraiment y déverser de l'eau, le vider de ce liquide que l'on a déversé afin de le remplacer par de l'eau? Que faut-il faire si on veut vraiment tirer profit du Coran? Eh bien, il faut vider ce réceptacle qui est présent dans notre poitrine, qui n'est autre que le cœur, que nous avons rempli par les distractions mondaines, par les occupations futiles, par les réseaux sociaux, par les attachements à cette dunya, qui nous ont fait naître en nous des soucis que l'on a considérés tellement grands au point de ne plus laisser de place pour le Coran. Et comment pouvons-nous, dans cette situation-là, tirer profit du Coran? Ce n'est impossible. Le réceptacle est plein. On a décidé d'y mettre autre chose que le Coran. Et c'est pour ça que, subhanallah, un verset peut être la cause de la guidée d'une personne, quand ce même verset peut être la cause, ou quand ce même verset, s'il n'est pas compris, s'il n'est pas correctement assimilé, eh bien, une autre personne, elle, qui va lire ce verset, s'est égarée. Non pas parce que le Coran égare, loin de là, mais plutôt parce que le réceptacle n'était pas prêt à recevoir cette science. Si seulement les musulmans comprenaient cela, leur vie se verrait bel et bien meilleure. Mais cela est un don qui ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, proportionnellement à la pureté de ce réceptacle, il se voit capable d'accueillir l'essence du Coran. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui lisent des versets dont ils ne comprennent pas l'essence, dont ils ne savent pas tirer profit. Vous voyez ces gens-là, lorsqu'ils s'efforcent d'étudier et qu'ils commencent à comprendre l'essence, vous les voyez se dire « Subhanallah, j'ai lu ce verset tant de temps, je ne me suis jamais rendu compte qu'il était aussi riche dans ses sens et qu'il voulait dire telle et telle chose. » Et peut-être que chacun de nous a pu dans sa vie vivre justement cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné l'utilité de la guider ou déguider contenue dans le Coran, dans certains ou dans même tous les versets, par des conditions. Par exemple, nous retrouvons tantôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hudan lil muttaqin ». Il est une guidée pour les pieux. Vous voyez dans le verset général qu'on a cité, Allah a dit que le Coran a été révélé au cours du mois de Ramadan et qu'il est une guidée pour les gens, n'est-ce pas? Si l'on étudie les autres versets, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jal va dire qu'il est une guidée pour les croyants, une guidée pour les gens pieux, une guidée pour un peuple qui raisonne, une guidée pour des gens qui méditent, une guidée pour des gens qui recherchent la vérité. Donc vous voyez, si on ne recherche pas la vérité, si on ne remplit pas les conditions du croyant, du pieux, de ceux qui veulent raisonner, méditer, alors on ne pourra pas tirer profit des différentes guidées citées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre donc clairement que tirer profit des guidées du Coran est conditionné. Justement, il est conditionné par le fait que le réceptacle de ce Coran, qui doit être le cœur, soit pur, soit prêt, recherche cette vérité et s'efforce d'être un croyant, d'être un pieux, d'être quelqu'un qui raisonne. Voilà pourquoi des fois, certains écoutent certains versets dans Salat al-Tarawih, par exemple, les prières de nuit du Ramadan. Et tu vois des gens qui écoutent un, deux mots, un passage du Coran fondre en larmes. Puis tu vois d'autres gens qui peut-être ne sont pas affectés par ce verset. Il est possible que la raison qui pousse à cela, c'est le fait que celui qui a médité le Coran, il s'est mis en croyant, en pieux, en quelqu'un qui recherche la vérité. Et quand tu fais cela, alors Allah t'ouvre la porte. Parce qu'Allah donne à celui qui lui demande. Mais si tu ne demandes pas, alors tu ne reçois pas. Tu dois donc faire en sorte que ton réceptacle veuille recevoir cette science-là. Mais si ton mode de vie que tu as choisi, sans que tu n'y sois contraint, te pousse à l'insouciance, alors nul étonnement. Si la routine que tu choisis d'avoir et qui anime ton quotidien, tes journées, t'empêche de lire et de comprendre le Coran, pourquoi s'étonner? C'est une suite logique. C'est à nous de fournir les efforts et de prouver à Allah qui nous sommes et ce que nous voulons être chez lui, auprès de lui, c'est-à-dire un croyant aimé de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc absolument un réceptacle qui soit prêt pour deux choses, accepter et œuvrer. Accepter, c'est-à-dire un réceptacle, un cœur qui veut et qui a l'envie de méditer le Coran. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'envie de méditer n'en tirera jamais profit. C'est un trésor. Et un trésor, ça coûte cher, ça se paye. Et donc, il faut vouloir méditer. Mais si tu n'apprends pas, comment vas-tu méditer? Donc ça, c'est la première chose, que le réceptacle accepte de vouloir méditer. Deuxièmement, que le réceptacle œuvre, le cœur œuvre. Donc une fois que le cœur a envie, Alors il faut œuvrer en ce sens. Comment? Notamment par l'apprentissage de la science religieuse, la lecture du livre d'Allah avec réflexion, avec méditation, le fait de rechercher à en comprendre l'essence en se cultivant, en s'informant, en lisant les contenus des livres connus qui expliquent le Coran. Il faut absolument être doué de raison, savoir méditer et réfléchir. Et ce qui contredit justement la première de ces deux choses-là, qui sont l'acceptation et le fait de vrai, premièrement, c'est al-mu'rid. Al-mu'rid, c'est celui qui se détourne. Il se détourne, il ne médite pas l'essence du Coran, il n'en tire pas profit. Celui-là est en danger. Et j'aimerais, aux musulmans, aux musulmanes, t'inviter à te poser la question suivante. Qu'en est-il de ta situation vis-à-vis de ce noble livre? Qu'en est-il de ton état, de ton envie ou non d'en comprendre l'essence? Lorsque quelqu'un de haut placé s'adresse à toi et dont tu ne comprendrais pas les propos, tu t'en verrais frustré, déstabilisé, car je n'ai pas réussi à comprendre telle ou telle personne, c'est tellement dommage. Mais est-ce que tu te dis cela concernant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est posée chez toi, sur ton étagère, disponible, et pourtant, est-ce que tu le lis? Tu décides plutôt de passer des heures et des heures et des heures, et je pèse mes mots, dans les réseaux sociaux, à, comme on dit dans le terme, à scroller, à regarder ce qui se passe dans le monde comme souillure, comme péché, comme... et j'en passe. Et le Coran est là, nous ne le lisons pas, nous ne le méditons pas, nous ne cherchons pas à le comprendre, puis on se plaint des peines, des tristesses, des calamités qui habitent nos vies, nos cœurs. Vraiment, le choix que nous avons décidé de faire sans que l'on ne soit contraint est tellement mauvais. Ô combien est grande la perte de la personne qui ne se réveille pas et qui ne revient pas à la base, ce pourquoi il ou elle a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala, l'adoration. Et donc celui qui se détourne ne peut pas tirer profit du livre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ. Dans le sens rapproché du verset, il nous parle, subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à ceux qui se sont détournés, en leur disant que ces versets leur ont été révélés. Mais c'est eux qui ont décidé de s'en détourner. Et c'est eux qui l'ont délaissé. Puis Allah Azza wa Jalla leur dit « أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ » N'ont-ils pas médité la parole? N'ont-ils pas réfléchi sur le propos? Car s'ils avaient réfléchi, ils ne s'en seraient jamais et jamais détournés. Donc ça c'est la première chose, c'est que le réceptacle, le cœur, veuille réfléchir sur le Coran. La deuxième chose, celui qui n'en tirera pas profit, c'est celui qui ne cherche pas la vérité. Man laysa lahu qasdul haqq. Celui qui n'a pas pour objectif d'atteindre la vérité. Lui là, tu peux le laisser lire le Coran pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et des années, et même jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Et wallah, il n'en tirera pas une seule goutte de profit. Et ça, tu le vois très bien. Avec ces nombreux détracteurs du Coran, qui notamment apparaissent dans certaines émissions où ils sont invités à s'exprimer sur le Coran, dans les réseaux sociaux, sur Internet et encore, où ils vont justement proférer des paroles à l'encontre du Coran, pris par la joie à l'idée de penser qu'ils ont réussi à trouver des contradictions dans le Coran, pauvres d'eux, pauvres qu'ils sont. Wallah, pauvres de toi, si tu crois avoir trouvé dans la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala, des contradictions. Et tu vois bien ainsi, clairement, que celui qui recherche à lire le Coran avec la mentalité du détracteur, wallah, il n'en tirera jamais profit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Il égare par celui-là beaucoup. Et il guide par celui-là beaucoup. Subhanallah, la même parole contenue dans le Coran peut guider ou peut égarer. Mais regardez ce qu'Allah dit, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Et il n'égare par cela que les pervers. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ. Ladina, ceux qui, il n'égare par cela que les pervers. Donc vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement juste dans sa guidée et dans le fait d'égarer subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, toute la louange lui revient de droit. سبحانه وتعالى والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Ceux qui rompent le lien ou le pacte avec Allah, c'est eux qui sont égarés. Donc ensuite nous allons parler justement de ces descriptions du Coran et ça touchera à notre fin pour cette première séance de cette introduction, Inch'Allah ta'ala. Mais j'aimerais attirer tout d'abord ma propre attention, et j'espère d'Allah que ces propos soient un rappel profitable envers ma personne, avant tout, et en second lieu, ceux qui m'écoutent. Tout ce dont nous parlons ne peut être atteint que par la grâce et la guidée d'Allah. Si Allah ne te guide pas, ton intelligence, tes moyens, le fait que tu sois doué, tout cela ne te sera d'aucune utilité. Demande donc l'aide d'Allah. Demande-lui de rattacher ton cœur au Coran et à sa compréhension. Allah a décrit ce Coran comme étant une rahma, une miséricorde, une lumière, nour, une guérison, shifa, comme étant muhkam, maîtrisé, précis. Parlons maintenant du caractère rahma, de la miséricorde du Coran. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour les croyants. Le Coran est une miséricorde pour les croyants. Il est donc une miséricorde pas pour n'importe qui, mais plutôt pour les croyants. Et cette miséricorde, c'est le bien mondain dans ce bas monde, dans cette vie-là, dans ta religion et dans l'au-delà, qui découle de la guidée que tu tires du Coran. Quand tu lis le Coran, quand tu le comprends, tu en tires des conclusions, tu en tires des guidées qui te corrigent dans ton cheminement, qui t'orientent dans ta vie. Tu reçois des bénédictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est le côté miséricordieux du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nullement étonnant, car il émane de celui qui est par excellence miséricordieux, Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le bien que tu tires du Coran fait partie de sa rahma. Le Coran est un nour, c'est une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Par cette lumière-là, révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a fait sortir des ténèbres. Il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, du mal vers le bien. du faux vers le vrai, de la mécréance vers la croyance, de l'ignorance vers la connaissance. Ce Coran est une lumière. Encore faut-il que tu veuilles allumer cette lumière. Lorsque tu te trouves dans une pièce sombre, si tu veux la voir illuminée, tu dois appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Eh bien, dans ton cœur, tu dois allumer cette lumière et rechercher à en tirer profit. Allah fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière par le Coran. Ce Coran a été décrit par Allah comme étant une guérison. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « wa shifa'un lima fi sudur » et il est une guérison du contenu des poitrines. Par celle-ci, par cette guérison-là, Allah guérit les cœurs de toutes ces maladies. Et beaucoup de gens ont restreint la notion de la guérison par le Coran à la ruqya, qui consiste à réciter du Coran sur la personne malade. Ça fait partie des façons de se soigner par le Coran, mais il n'y a pas que cela. Certains salafs disaient « Inna hadha al-Qur'an dhakara da'akum wa dawa'akum » Certes, ce Coran a mentionné vos maladies et vos remèdes. Si tu veux te soigner par le Coran, si tu veux guérir ton cœur, ta vie, ton âme par le Coran, alors il faut que tu puisses en tirer les enseignements. Il faut que tu les comprennes et que tu les mettes en application dans ta vie et tu verras que tu guériras. Combien de gens ont guéri? Je ne parle pas ici d'une maladie physique, mais je parle d'une maladie spirituelle, la maladie de l'âme. Combien de gens sont complètement déprimés, sont remplis de stress? Combien de gens sont peinés par la tristesse, rongés par les soucis desquels ils n'arrivent pas à se débarrasser? Alors qu'ils prennent tel et tel médicament pour se détendre psychologiquement, allant même jusqu'à prendre des médicaments psychiatriques et ainsi de suite, certains vont même jusqu'à consommer de l'alcool, des drogues, pour oublier les soucis, n'est-ce pas? Il y a à peine quelques jours de cela, j'ai eu une discussion avec une personne qui fume énormément de cigarettes dans la journée et qui m'a dit « À chaque fois que je fume, j'oublie mes soucis. » Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est triste. Si tu veux oublier tes soucis complètement et définitivement, tu dois d'abord prendre conscience que tu es malade. Ton âme est malade. Ton cœur est malade. Une fois que tu as pris conscience que tu es malade, tu dois te soigner par le Coran. Lis le Coran. Subhanallah, on se plaint de peine, de tristesse. Et qu'est-ce que l'on fait de nos journées? On les passe devant les écrans, devant les réseaux sociaux. À écouter les idées malsaines et les propositions qui nous sont faites de soi-disant liberté et de vie heureuse par des gens qui ne connaissent ni Allah, ni son prophète, ni l'au-delà, ni le châtiment de la tombe, ni le jugement, ni les anges, ni le destin, ni la croyance islamique. Et on se plaint après d'être rongé par la douleur d'une vie tellement étroite, tellement exiguë malgré sa largesse apparente. C'est tout à fait logique. Tu veux te soigner? Soigne-toi par le Coran. Lis-le. Apprends-le, comprends-le, applique-le, enseigne-le. Et proportionnellement à cela, wallahi, Allah te soignera et te guérira. Allah a décrit le Coran comme étant muhkam. Muhkam, c'est-à-dire mutqan. C'est-à-dire qu'il a été révélé avec précision et qu'il est explicite. Est clair. Tout le Coran est muhkam. Et aussi, on peut dire tout le Coran est mutashabih. Tout le Coran se ressemble. Les différentes thématiques sont abordées de différentes façons et ainsi les versets viennent se compléter les uns et les autres en se ressemblant. C'est pour ça qu'Allah parle plusieurs fois des histoires, parle plusieurs fois des mêmes règles, parle plusieurs fois. Tout ça pour que ta foi ne cesse de se nourrir, d'augmenter, de grandir. Regarde, subhanallah, tu ne te lasseras jamais de lire le Coran. Suratul Fatiha, tu la récites depuis combien de temps? Et tu remarques que jamais tu t'en lasses. Tous ces imams qui récitent dans Salat et Tarawih et qui se mettent à pleurer après réciter Ihdina Sirat al-Mustaqim, alors qu'ils récitent ce verset depuis 20, 30, 40 ans dans chaque prière. Ça, c'est le secret du Coran. On ne se lassera jamais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran a certaines parties qui sont explicites de manière plus particulière et certaines parties qui n'apparaissent pas à tout le monde aussi explicites de manière particulière. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les versets qui ne nous paraissent pas explicites à la lumière de ceux qui le sont, bien que cela est relatif. Car les savants de l'islam, pour eux, le Coran entier est explicite. Et plus tu apprends le Coran, plus les versets qui te semblaient, je dis bien qui te semblaient ambigus, implicites, deviennent explicites, deviennent compris. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a aussi décrit le Coran par as-salah, la droiture, la rectitude dans la guidée. Et pas pour n'importe qui, la rectitude pour l'ensemble de l'humanité. Mais cette rectitude-là dans ta vie, ô être humain, tu ne peux l'atteindre qu'en revenant au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les bonnes actions ont été appelées dans le Coran « al-a'mal as-saliha ». Les actions « saliha », on les traduit souvent par « les bonnes actions ». Mais en réalité, ce sont les actions qui relèvent de la droiture, les actions qui relèvent de la guidée, de la vertu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est aussi, donc en même temps qu'il est une guidée, une droiture, il est une rectitude pour quiconque voudrait se voir rectifié dans son cheminement. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah et disait « Aslih li dini » « Oh Allah, réforme, rectifie ma religion. »« Alladhi huwa ismatu amri. » »« Réforme ma religion, réforme ma vie mondaine et réforme mon retour vers toi dans l'au-delà. » Le Coran est une réforme dans toute chose, dans la croyance à avoir, dans les moralités et les caractères, dans les adorations, dans les règles à respecter, le licite et l'illicite. Tous ces descriptifs dont nous venons de parler, et d'autres encore, ne cessent d'être répétés plusieurs fois de différentes manières dans le Coran. Et l'objectif à travers cela, c'est bel et bien que tu renouvelles ta foi dans le cœur autant de fois que tu renouvelleras ta lecture du Coran. Celui qui abandonne le Coran abandonne la foi. Celui qui s'attache au Coran s'attache à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant à ceux qui ont eu la foi, ces versets révélés augmentent leur foi et tu les vois réjouis. Il dit aussi وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et quand ces versets leur sont récités, leur foi augmente et en leur Seigneur, ils placent toute leur confiance. Et ça, tu ne peux l'atteindre que avec la lecture, avec la réflexion et la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'arrêter sur quelques versets comme nous allons le faire, incha'Allah, nous servira, je l'espère, de motivation afin de redoubler d'efforts dans l'apprentissage, dans le fait de rechercher la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève mes mots pour cette séance qui est une introduction à notre sujet, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle nous aidera à suivre et à ce qui va suivre. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, demain le 11 Ramadan 1447, le légir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 13h40. Inch'Allah ta'ala, pour le premier chapitre de notre étude. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.